La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, le choc est parfois rude.
Oui, dans les colonnes du magazine Slate, un urgentiste américain raconte comment, lorsqu'il se retrouve face à un patient, il ne peut jamais être certain que celui-ci jouit bien de toutes ses facultés. Et c'est ainsi qu'il lui revient, dans un premier temps, d'évaluer cette personne. Pour ce faire, il lui pose généralement quatre questions simples. Comment vous appelez-vous? Où sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Et enfin, qui est le président des États-Unis? Lorsque la personne connaît la réponse à ces quatre questions, on dit alors qu'elle est alerte et orientée en termes de personne, de lieu et de temps. En revanche, lorsqu'elle se trompe sur une des réponses, alors il est d'usage de la réorienter. Or, chaque semaine, dit-il, plusieurs de mes patients se trompent en répondant à la question sur le président des États-Unis. Jimmy Carter semble être un grand favori. La semaine dernière, l'un d'entre eux m'a dit que le président, c'était Obama. C'est réellement un moment fascinant. Non, dit-il, au point que je suis devenu à présent très curieux de découvrir la réaction de chacun de mes patients. À chaque fois, je fais une pause, je prends une profonde inspiration, je les regarde droit dans les yeux et je leur révèle l'indéniable vérité. Le président de notre pays, les États-Unis, c'est Donald Trump. Et puis je me tais. Et je garde mes yeux dans leurs yeux. En général, poursuit l'urgentiste, la suite est plutôt moche. Récemment, une vieille dame a proféré un râle effrayant, comme si quelqu'un venait de lui annoncer que son chat était mort. Un autre patient a cligné deux fois des yeux lorsque je lui ai annoncé. Un autre m'a reproché de lui faire une mauvaise blague. Il y eut aussi le cas de ce monsieur qui a lui levé les sourcils, haussé les épaules et sorti au débotté. On s'en fout. Mais j'attends toujours que quelqu'un me dise « Génial, ça y est !» Sauf que pour l'instant, rien. En revanche, j'ai eu droit à des réactions plus philosophiques du genre « Waouh, j'ai voté pour lui, mais il n'a pas vraiment gagné quand même, ça c'est vraiment dingue ». En d'autres termes, résume l'urgentiste, quelle que soit leur affiliation politique, dit-il, toutes les réactions de mes patients ont montré qu'ils trouvent la réalité bien plus étrange que la fiction. Alors, faut-il en conclure que seuls les amnésiques sont aujourd'hui capables d'incrédulité lorsqu'on leur parle de Donald Trump? Il y a tout juste 10 jours, à l'issue de son premier discours devant le Congrès, nombre de commentateurs ont jugé que le Donald nouveau était arrivé. Toute la presse conservatrice, notamment à l'instar du New York Post, a applaudi le vrai début de sa présidence. Lisant sagement son discours sur un téléprompteur, le chef de l'État, mesuré et porteur d'un message d'unité, a ravi le camp républicain. Alors en l'occurrence, on ne peut pas parler véritablement d'amnésie puisque nombre de journaux semblaient au contraire se demander où avait bien pu passer le Donald Trump, provocateur, pourfendant l'establishment et le déclin de l'Amérique. En revanche, satisfait d'entendre ainsi le président dépeindre les problèmes sans verser dans le catastrophisme, un président pacifique, en somme, nombreux sont ceux qui paraissaient faire montre d'une soudaine crédulité. D'où cette question soulevée par le quotidien Dello. Sommes-nous en face d'un génie au bord de la folie, en train de transformer la scène politique par son talent d'improvisateur, ou bien d'un amateur en politique sans la moindre rigueur, incapable de résister à la tentation de faire du charme à son public? Pour le quotidien à vénérer, après le discours aux accents conciliateurs prononcé par le président américain devant le Congrès, la méfiance, dit-il, est de mise. Même s'il a délaissé, ne serait-ce que pour un court instant, le scénario apocalyptique du fameux carnage dont sont victimes les Américains, nous ne devrions en aucun cas nous laisser éblouir. Car il y a dans Donald Trump un peu de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Après le registre de la criée tonitruante, voici qu'il se glisse dans le rôle de l'homme d'État, affichant une fermeté conciliante et une observance inattendue de la séparation des pouvoirs, deux masques en réalité que tout populiste qui se respecte sait revêtir selon les circonstances.
Et d'ailleurs, la semaine qui vient de s'écouler prouve que Donald Trump n'a rien changé à son discours.
Oui, la semaine a débuté avec la mise à mort de l'Obamacare. Le grand combat contre la réforme du système de santé est de retour, prévient notamment le magazine Politico. Le projet va dans le sens d'un désengagement financier de l'État fédéral. En clair, la nouvelle loi prévoit le remplacement des subventions assurées au niveau fédéral par un système de crédit d'impôt individuel, précise The Washington Post. Ou dit autrement, ce projet exacerbe les inégalités entre Américains en désavantageant les revenus modestes. Il prévoit en revanche une réduction d'impôts pour les PDG d'entreprises d'assurance santé dont certains gagnent plus de 10 millions de dollars par an. Par ailleurs, toujours lundi, le président américain a également signé un nouveau texte visant les ressortissants de 6 pays à majorité musulmane, une version « light », écrit The New York Times, du premier décret anti-immigration, dans la mesure où il devrait bouleverser moins de vies. En revanche, cette nouvelle interdiction envoie le même message délétère, précise aussitôt le quotidien, que les musulmans sont intrinsèquement dangereux. Une phrase du texte, d'ailleurs, semble bien suggérer que l'islam est directement visé, renchérit le magazine Slate. Le décret oblige en effet le ministère de la Sécurité intérieure à publier des informations sur les types d'actes de violence commis contre les femmes aux États-Unis par des étrangers, y compris ce qu'on appelle les crimes d'honneur, des crimes courant dans plusieurs pays musulmans, mais très rare aux États-Unis. Enfin, dernier événement en date, interrogé mercredi sur CNBC, Scott Pruitt a expliqué qu'il ne croyait pas que le CO2 était le premier contributeur au réchauffement climatique. Ce que la science a pourtant réussi à démontrer. Et le problème, note The Huffington Post, c'est que cet homme, proche de l'industrie des énergies fossiles, est aujourd'hui à la tête de l'Agence de protection de l'environnement américaine. Réforme du système de santé, décret anti-immigration et promotion du climato-scepticisme. Voilà trois événements qui, en une semaine à peine, devraient donc permettre aux amnésiques de recouvrer rapidement la mémoire sans pour autant leur faire perdre leur incrédulité.